Oui ou non, vous avez déjà eu recours à des produits dopants pour améliorer vos performances? Oui ou non, durant vos 7 victoires lors du Tour de France, vous avez déjà pris des produits dopants?
Did you ever take banned substances or blood dope?
Yes.
In your opinion, was it humanly possible?
Selon vous, était-il humainement possible de gagner le Tour de France sans avoir recours au dopage 7 fois de suite?
Not in my opinion.
Alors c'était incroyable, hein. Le 15 janvier 2013, il y a 13 ans, les aveux d'Armstrong. Moi je me rappelle, c'était pendant la nuit ici, on avait parlé pendant toute la matinale avec Jean-Jacques Bourdin. C'était le grand événement. Armstrong qui en fait est tombé, il fait ses aveux parce qu'il a été balancé en fait avant, surtout par ses anciens coéquipiers de l'US Postal à l'USADA, l'organisme antidopage américain. C'est comme ça qu'il tombe pas sur un contrôle positif, c'est important de le rappeler. Du coup la question qu'on se pose ce matin, 13 ans après,
il avait été contrôlé positif mais l'UCI avait mis ça sous le tapis,
avait dit que ce contrôle était on va dire pas réglementaire. La lutte antidopage passe-t-elle forcément par la délation? C'est la question que l'on se pose ce matin. Tiens, Chris, j'aimerais qu'on commence par toi.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des moyens les plus efficaces. On a vu que la lutte antidopage en matière de contrôle n'arrive pas à grand-chose. Et de tout temps, finalement, les grandes affaires de dopage, elles se sont révélées au grand public soit par l'utilisation d'enquêtes judiciaires ou d'enquêtes journalistiques, soit ça a été le cas, par exemple, de l'affaire Festina. Il y a eu de temps en temps des contrôles, mais ça remonte très loin. Ben Johnson, une des plus grandes affaires de dopage, là c'était un contrôle positif. Mais depuis, effectivement, que ce soit l'affaire Balco, que ce soit l'affaire Armstrong, ou que ce soit l'affaire du dopage d'État en Russie, ça s'est fait grâce à des informations données. Alors, je veux pas parler de délation parce que ça a une connotation.
Il y avait eu le contrôle quand même de
très péjoratif. Ça rappelle Contador. Les années sombres. Il y a beaucoup de gens, notamment dans les réseaux sociaux, qui font ce genre de trucs. Mais là, c'est un peu à la manière que utilisée par les juges en Italie. On prend des repentis, on travaille avec eux et ils te finissent par te donner des pistes. Je pense que c'est une vraie piste de réflexion et que ça passe par là, même si le principe peut paraître un peu surprenant et pas toujours très chic. Mais bon, si on veut faire tomber les gros réseaux, si on veut faire tomber les gros trafiquants et les gros dopés, c'est ce qu'il faut faire.
Je rappelle juste, je disais, Contador est tombé sur un contrôle quand même au clan Buterol. Souvenez-vous, c'est le point de départ de ses disqualifications à son victoire sur le Tour de France. Jérôme, il y a quelques temps sur notre podcast Vélo au Grand Plateau, vous vous trouvez sur la plateforme de téléchargement, on avait eu des gens de la FLD qui nous disaient, c'est important aujourd'hui que des personnes dans le peloton peut-être nous donnent des informations pour trouver peut-être les tricheurs. Ça passe par là?
Moi, je souhaite absolument pas que ça passe par là, parce que déjà, la lutte antidopage, quand on est dans un sport comme le nôtre, coûte très cher. Nous, les équipes, cotisons à très haut niveau pour organiser nos contrôles. En interne, on remet des moyens pour cela. Et des organes sont compétents. Et en plus de cela, je pense que, quelle que soit la délation faite, elle va évidemment dépendre de qui est balancé et de qui est suspecté. Je fais partie de ceux qui sont aujourd'hui très sceptiques sur la capacité dans mon sport et dans d'autres sports de mettre à mal un très grand champion dopé. Je pense qu'aujourd'hui, je fais partie de ceux qui disent qu'il n'y aura plus de grandes affaires de dopage. Ça va trop loin, c'est trop puissant et le sport et le sportif est trop puissant. L'économie tourne autour de ces grands-là. Donc la délation, pourquoi pas, pour aider les enquêteurs, pour avoir, comme dans la justice traditionnelle, des indicateurs, des gens qui peuvent donner. Mais regardez le CLAEPS aujourd'hui, les moyens qu'ils ont.
Les gendarmes qui s'occupent de ça, effectivement.
Ils n'ont pas de moyens. Et même s'ils trouvent des moyens, ils trouvent des choses, on va leur dire, écoutez, vous n'êtes pas assez puissants, on s'arrête là. Le dernier cas, dans notre sport, avec un grand champion de l'époque, on a arrêté toute procédure parce que le mec était trop puissant et son équipe aussi.
Marc, en quelques mots?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, la lutte antidopage fonctionne comme la justice en général. C'est-à-dire que quand il y a des situations difficiles, il y a des enquêtes. Et les enquêtes, c'est l'accumulation de petits détails qui viennent de différents horizons qui permettent éventuellement d'aller plus loin. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, on a un peu quand même l'impression qu'on a beaucoup d'enfants de cœur maintenant dans le sport, dans tous les sports, et il n'y a plus de vilains tricheurs.
Et les performances sont de plus en plus incroyables.
C'est des situations difficiles à appréhender parce que si on est trop dans la suspicion et dans la tricherie, on n'avance plus et on ne s'entraîne plus. Donc, est-ce qu'il faut rester sur quelque chose qui ressemble à une forme de naïveté et se dire on s'entraîne, on travaille, on essaye d'être le plus performant possible et on verra bien où ça nous mène à la sortie. Moi, je crois quand même à une forme de justice et à une forme de destin qui se réalise tôt ou tard. Ça met parfois de plus en plus de temps, mais on finit toujours par savoir la vérité. Ouais. Et je pense que en ce qui concerne le dopage, on ira vers des situations où on apprendra les événements ou les tricheries avec plusieurs années ou dizaines d'années derrière.
Malheureusement.
Il y a 13 ans, les aveux d'Armstrong nous font encore réfléchir sur la lutte anti-dopage d'aujourd'hui.